Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 4h26, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Nous sommes en direct, et oui, comme tous les matins, fidèle au poste pour vous accompagner, vous informer, vous réveiller avec Anaïs Castagna. Bonjour Anaïs.
Bonjour Charles et bonjour à tous.
Bonjour Géraldine Demory.
Salut tout le monde.
Voilà, vous l'entendez, toute l'équipe est là, en pleine forme. Je pose la question, mais
oui.
je connais la réponse parce qu'on s'est croisés, mais je laisse tout le monde vérifier avec vos voix. Comment dire, j'allais dire ensoleillé, Géraldine, c'est pas forcément le cas pour tout le monde aujourd'hui.
Non, pas, il y a un peu moins de soleil aujourd'hui, mais
ça va être calme.
Un peu de pluie.
Un peu de pluie, mais c'est toujours une bonne nouvelle en ce moment, la pluie. Donc on annonce avec le sourire la pluie ce matin avec Géraldine sur RMC. Le standard est aussi ouvert, évidemment. Quentin, Alex attendent vos appels au 32-16. Vous connaissez le chemin pour venir sur RMC en direct ce matin. Plus que jamais, on va vous écouter, on va vous entendre ce matin parce qu'on est au lendemain, vous le savez, du rejet de la motion de censure. Ça s'est joué à 9 voix près et au lendemain de ce rejet, le gouvernement peut-il vraiment maintenir sa réforme?
En tout cas, il a été sauvé de justesse et la réforme des retraites est considérée comme définitivement adoptée. Mais les opposants veulent contester la réforme devant le Conseil constitutionnel et la colère s'exprime aussi dans la rue. Manifestation spontanée hier soir dans tout le pays. Des rassemblements parfois émaillés de tensions comme à Paris où 171 personnes ont été interpellées. Et la grève se poursuit chez les éboueurs et dans les raffineries. Les syndicats appellent d'ailleurs à durcir le mouvement.
Eh bien, venez nous dire tout de suite au 32-16 quel est votre état d'esprit ce matin après l'adoption définitive de la réforme par l'Assemblée. Est-ce que le gouvernement peut maintenir coûte que coûte ce texte face à la rue? Est-ce que vous soutenez les manifestations spontanées qui ont eu lieu hier soir? Vous y étiez peut-être. Est-ce que vous soutenez aussi les mouvements de grève, de blocage? Il y a la grève des éboueurs qui s'étend à Marseille, à Orléans, mais surtout la grève des raffineries. Plus aucun produit ne sort à 7h. C'est ce que dit la CGT Chimie hier et qui parle pour l'ensemble des raffineries. Racontez-nous la situation sur le terrain, en particulier dans le sud-est. On sait que c'est tendu à la pompe. Venez nous le dire ce matin au 32-16. Quelle est la situation sur le terrain? C'est vous qui allez nous faire remonter les infos, évidemment, au 32-16. Et on n'oublie pas non plus l'appli RMC. Il y a Direct Studio dessus. Vous allez sur l'appli et sur l'onglet Direct Studio, vous nous envoyez vos réactions en direct. Vous connaissez le chemin.
Et puis on n'oublie pas nos rendez-vous. Dans mon choix ce matin à 5h10, je vais vous parler de ces artistes et de ces intellectuels qui dénoncent la méthode employée par Emmanuel Macron pour faire passer la réforme des retraites. On retrouvera aussi Anthony Morel pour C'est déjà demain, évidemment, Manu Le Chip pour l'économie. Et puis Antoine Martin nous dira qui est le nouveau capitaine de l'équipe de France. C'est Kiki, évidemment, Kylian Mbappé, qui va succéder à Hugo Lloris. Rendez-vous à 6h20 pour la Story Sport sur RMC et RMC Story.
Évidemment, tous nos rendez-vous. On va aussi se marrer tout à l'heure avec Arnaud Demange. Vous connaissez vos rendez-vous de bon matin sur RMC. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir et ça va être un plaisir pour vous de vous réveiller avec RMC ce matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 4h41, bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC. Et évidemment, ce matin, on parle du rejet de la motion de censure hier à l'Assemblée. Rejet de justesse à 9 voix près. Alors le gouvernement peut-il vraiment maintenir sa réforme?
C'est la question du jour sur RMC.
Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure. 287 pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adopté.
Voilà, vous avez fait le calcul, ça s'est joué à 9 voix près pour la motion de censure déposée par le groupe Liot hier à l'Assemblée. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a donc été sauvé de justesse et la réforme des retraites est considérée comme définitivement adoptée.
Pour autant, est-ce que son entrée en vigueur est désormais inéluctable? Eh bien non, les députés de gauche du Rassemblement National ainsi que la Première Ministre elle-même vont saisir le Conseil constitutionnel pour s'assurer de la conformité du texte avec la Constitution. Et au-delà de ça, les opposants veulent continuer la bataille par tous les moyens possibles. C'est ce que nous explique Cyprien Pézeril.
Des députés insoumis qui déroulent dans l'Assemblée une banderole siglée « On continue » et qui entonnent une nouvelle fois un chant de manifestants. Bref, pas question de lâcher le combat, dit leur présidente de groupe Mathilde Panot.
Rien n'est fini dans ce pays. Nous continuerons jusqu'au retrait du texte. Et dès jeudi, l'intersyndicale a appelé dans tout le pays à des manifestations qui permettront, je l'espère, de censurer de manière populaire ce gouvernement et d'enfin enterrer cette réforme des retraites.
Une lutte que la gauche compte aussi poursuivre à plus long terme en réclamant que les Français puissent s'exprimer dans les urnes. C'est ce que demande notamment le communiste Pierre Dharréville.
Nous avons d'ores et déjà transmis une demande de référendum d'initiative partagée. Le référendum d'initiative partagée nous donne aussi une perspective pour redonner la parole au peuple et pour apporter une sanction démocratique à cette réforme qui est illégitime.
La demande doit maintenant être approuvée par le Conseil constitutionnel. Si elle l'est, s'ouvre alors une période de 9 mois pendant laquelle il faudra recueillir 4,7 millions de signatures pour qu'ensuite un référendum puisse être organisé.
Les précisions de Cyprien Pézril du service politique, justement, sur ces recours politiques qui vont, vous l'entendez, pendant un certain temps, mais dès hier soir, les opposants à cette réforme sont descendus dans la rue. De nouvelles manifestations sauvages à Paris, cette nuit, des tensions dans le centre de la capitale, hein, on va le préciser, il y a eu, vous verrez beaucoup, hein, ces images de poubelles brûlées, il y a eu aussi des centaines d'interpellations un peu partout en France.
Ouais, rassemblements aussi à Strasbourg, à Marseille, ou encore à Rennes, ou à Toulouse, tiens, où un millier de personnes se sont réunies hier soir en plein centre-ville, des manifestants plus déterminés que jamais.
La grève s'amplifie, la grève continue. On avait peu d'illusions sur la question de cette motion de censure, comme on a peu d'illusions depuis le début sur la question du Parlement. Donc on va continuer à lutter.
En faisant grève, hein, en ne se rendant pas au travail le matin et en leur disant eh ben, non, je ne suis pas au travail, je suis sur les ronds-points, je suis sur les axes de communication à bloquer mes routes. Il faut hausser le ton à la hauteur du mépris qui nous est opposé.
Ce gouvernement est plus illégitime que jamais. En fait, on va les mettre dehors. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'objectif de la mobilisation.
Vous entendez ces manifestants déterminés, ces opposants. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous faites partie de ces Français mobilisés? Vous n'hésitez pas, ce matin, vous allez prendre la parole au 32-16, parce que bon, il y a l'opposition à la réforme, mais il y a aussi la forme que prend cette mobilisation. Est-ce que vous soutenez les grèves, les blocages, hein? Il y a les éboueurs, il y a d'autres villes d'ailleurs dans lesquelles les éboueurs entrent dans la danse, si j'ose dire. Je pense à Orléans, à Marseille aussi, où les éboueurs ont décidé de faire grève. Et puis, il y a la question des raffineries, hein? Plus aucun produit ne sort à 7h de l'ensemble des raffineries de France, annonce la CGT Chimie. Racontez-nous la situation sur le terrain ce matin. Je vois que Rémi nous appelle de Grenoble dans l'Isère. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Ah bah Rémi, on vous a appelé, on connaît bien Rémi, on vous a souvent le matin au 32-16, mais là c'est la première fois je pense depuis le 49-3 qu'on se parle. Rémi, bon, je vous imagine toujours aussi déterminé contre cette réforme, Rémi.
Oui, toujours autant, mais même plus, en vrai, parce que là, comme disait quelqu'un dans votre reportage, il va falloir hausser le ton à la hauteur du mépris qu'on nous oppose, quoi. C'est tout.
Oui, mais alors, hausser le ton, ça veut dire quoi, Rémi? J'imagine que vous soutenez les grévistes et tous ceux qui bloquent un peu partout en France, dans les raffineries, les éboueurs, les salariés d'EDF.
Ah, tout à fait, là. Il faut plus rien qui marche. Il faut que tout s'arrête. Ils doivent céder, c'est tout. Ils doivent céder. 65% de la population qui vient de se faire voler sa volonté. C'est pas possible.
Ouais, ça doit pas passer. Alors, ok, j'entends Rémi, votre détermination. Vous soutenez toutes les formes de grève et de blocage. J'aimerais juste vous entendre, Rémi, sur ces images aussi de violence et de débordement. Vous avez vu forcément ces incendies, etc. Il y a des vitrines brisées un peu partout en France. Il y a eu ces élus aussi, intimidés, menacés, tout ça. Vous le condamnez, Rémi?
Alors, écoutez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui est violent, qui est pour la violence et qui accepte qu'on casse, qu'on détruise, qu'on vole, etc. Moi, ce que je comprends là, c'est qu'on a des gens qui ont fait tout dans les règles. Ils ont manifesté gentiment. Ils ont fait la grève gentiment. Ils ont fait des blocages pacifiques. Ils n'ont pas coupé l'électricité aux gens. Ils n'ont pas bloqué des trucs, etc. Et là, maintenant, ça passe quand même. Il va falloir m'expliquer, si les gens ils se mettent pas à tout casser, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi ce qu'il faut faire.
Rémi, on doit évidemment recadrer et dire que il faut, c'est évidemment,
on n'appelle pas la violence,
je vous demande ce qu'il doit faire.
Mais c'est intéressant,
65% des gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Mais c'est intéressant, c'est ce qu'on entend aussi, hein, dans nos reportages, c'est quand les gens disent on va hausser le ton. On sent qu'il y a, voilà, ça va être de plus en plus compliqué. Non, mais je pense notamment, vous le dites, aux cortèges, aux syndicats, etc., qui jusqu'à présent organisaient, encadraient cette mobilisation. Oui, mais là, on voit bien qu'ils sont débordés, là, que on parle de cortèges sauvages, de manifestations spontanées, de plus en plus difficiles à encadrer pour les syndicats, de plus en plus difficiles à surveiller pour la police. C'est un peu le risque d'embrasement.
Je pense même pas qu'ils soient débordés, très honnêtement, parce que, en vérité, les citoyens se sont pliés à ces règles. Avec zèle même, ils ont fait très attention. Il y a eu très peu de violence, quasiment pas d'ailleurs. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blocage.
Désormais, il y en a désormais, Rémi, des actions
maintenant,
violentes.
Maintenant, il y en a, mais écoutez, je veux dire, vous ne pouvez pas avoir deux tiers d'un peuple souverain à qui on vole son droit de choisir son propre destin. Ça fait partie de la Constitution. C'est comme ça que s'est bâti notre pays. Et nous, maintenant, on est violents.
Et j'imagine que, Rémi, vous espérez que, comment dire, que cette tension, cette colère, ces blocages fassent encore plier. Vous avez encore un espoir qu'Emmanuel Macron renonce à la réforme des retraites?
Bah écoutez, moi je fais peut-être du ménage, mais quand j'étais à l'école, j'ai eu des cours d'histoire. Et la chose que j'ai appris en histoire, c'est que la seule responsabilité d'un peuple, c'était de faire respecter son droit à s'autodéterminer. Et si là maintenant, la tête pensante là-haut, elle décide que 65% des gens sont trop cons pour choisir, eh ben je suis désolé, s'il y a des violences, il faudra s'en prendre à lui. C'est terrible parce que moi je sais pas ce que je veux. Oui. Mais malheureusement,
il vous. Alors tiens, bah Rémi, bougez pas, on va écouter David qui lui nous appelle de la Loire. C'est ça. Bonjour David.
Salut Charles, salut Anaïs.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
David,
bonjour.
David sur la route, c'est ça, chauffeur-livreur.
Exactement, ouais, sur le retour.
Alors d'abord, première question, si vous êtes sur la route, est-ce que tout va bien côté carburant dans votre secteur?
Bah écoutez, je fais le lien entre Mulhouse et Lyon et a priori, il n'y a pas de pénurie en vue pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, c'est plus au sud, a priori, que ça bloque. On verra ce qu'il en est ce matin au 32-16 avec les remontées de terrain qu'on va avoir. Mais oui, en effet, d'après ce qu'on sait, c'est plutôt dans le sud et le sud-est que ça coince. Et alors vous, David, en tant que chauffeur-livreur, comment vous regardez ces mobilisations, ces manifestations, parfois ces débordements aussi hier soir après le rejet des motions de censure à l'Assemblée?
Après, moi, je regarde. Bon, après, bon, j'ai pas encore fait grève parce que pour le coup, je peux pas me permettre, on va dire, financièrement. Après, je soutiens à 100%. Par contre, les mouvements tels qu'ils soient un peu plus radicalisés ou même pacifiques,
y compris les blocages des raffineries, les mouvements des éboueurs, etc. Vous soutenez.
Sûr, je soutiens. En fait, le problème qui se passe, c'est que pour se faire entendre dans ce pays, c'est qu'il faut, comment dire, économiquement parlant, faut faire des blocages. Ça touche au portefeuille.
Ouais,
c'est ceux qui ont des pouvoirs nuisants, entre parenthèses, qui ont la capacité de pouvoir faire agir le gouvernement, c'est-à-dire tout ce qui touche le pétrole, les routiers, les agriculteurs. Ceux qui ont cette capacité-là à faire du bruit, c'est eux qui ont le pouvoir pour que le gouvernement nous entende.
Et comme Rémi, vous espérez encore, David, que ces mobilisations, que ces blocages, que ces manifestations puissent faire reculer Emmanuel Macron?
Alors, je pense pas qu'il reculera, parce que Macron, il est déterminé comme jamais, et puis il nous méprise comme pas possible, donc je pense pas qu'il reculera. Je pense qu'à mon avis, il va remanier son gouvernement pour mettre entre parenthèses du 109, faire miroiter de nouvelles choses qui vont arriver, pour calmer un peu les choses. Mais je pense pas, parce que c'est dans les plans, c'est planifié, il doit mettre ses réformes. Pour ou contre les habits des citoyens qui en grande partie sont contre. Hein.
Mais vous avez utilisé le mot mépris, David, c'est ce que j'entends, et c'est un mot qui revient beaucoup ces derniers jours, notamment avec l'utilisation du 49-3. Beaucoup dénoncent une forme de mépris. Emmanuel Macron qui ne s'exprime pas et qui devrait le faire, en théorie, nous dit-on, dans les jours qui viennent, prendre la parole au lendemain de ce rejet des motions de censure, de cette adoption définitive de la réforme des retraites. On va suivre, hein, parce que quand on vous écoute, Rémi et David, vous vous dites déterminé, soutien des bloqueurs, des grévistes, etc. Mais en même temps, David, vous nous dites « Oui, je souhaite que ça bloque, qu'il y ait des grèves, mais je me fais pas d'illusions sur le fait qu'Emmanuel Macron ira jusqu'au bout. » Venez nous le dire ce matin. Est-ce que le gouvernement peut maintenir coûte que coûte cette réforme des retraites? Je vous remercie, hein, David et Rémi, d'être passés de bon matin, évidemment, ouvrir le débat au 32-16, venir témoigner. Vous faites comme Rémi et David, vous prenez la parole. Est-ce que vous aussi, comme Rémi et David, vous soutenez les mouvements de blocage et les manifestations parfois sauvages qui ont eu lieu dès hier soir et qui vont se poursuivre aujourd'hui? Ou à l'inverse, vous estimez que ça y est, la réforme est adoptée, qu'il faut passer à autre chose et qu'il n'y a pas de raison de bloquer le pays? Venez nous le dire ce matin. Vous prenez la parole. Évidemment, vous le savez, vous connaissez le chemin. Le 32-16 est ouvert pour vos témoignages en direct. Et puis, on ne va pas parler que retraite ce matin. Évidemment, il y a tous nos rendez-vous. On va vous faire gagner des cadeaux. Il y aura la Voix du jour juste après le journal de 5h. C'est des places de ciné. Vous allez voir John Wick 4. Ça sort demain en salle. Mais dès aujourd'hui, vous gagnez vos places sur RMC. Et puis, tiens, on va découvrir aussi le choix d'Anaïs.
Je vais vous parler de ces artistes et de ces intellectuels qui dénoncent la méthode utilisée par l'exécutif pour faire passer la réforme des retraites. Ben oui, on va reparler, Charles.
Mais oui.
Parmi les derniers à avoir pris la parole, Patrick Bruel.
Mais oui. De Philippe Martinez à Patrick Bruel. Il n'y a qu'un pas. Ce sera le choix d'Anaïs juste après le journal de 5h. Et puis tout de suite, c'est toute l'équipe, tiens, qui vient s'asseoir autour de la table. Un petit déj avec des histoires. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, Les histoires de Charles Matin.
Eh oui, les histoires, c'est toute la bande, toute l'équipe qui s'installe autour de la table pour un petit-déj agrémenté d'histoires. Je sais pas pourquoi j'ai cette métaphore du petit-déj, mais oui, on est de bon matin. Anaïs peut faire les grands yeux. Mais oui, Anaïs, tu... Mais
où sont les croissants?
Anaïs,
c'est pour ça que je fais les grands yeux.
Anaïs, tu es le café de cette matinale. À tes côtés, mon jus d'orange. Bonjour Géraldine de Maury.
Voilà.
Voilà.
Oui, ouais. Le gras, toi tu es le gras.
Le chocolat, le poisson. Quentin Dubois, mon kiwi. Bonjour.
Ça va, c'est acide, j'aime bien.
Et mon demi-kilo de chouquette. Voilà. Arthur Asquin est là aussi. Voilà, vous avez tout le menu, le toute sucré. La bande. Mais oui, le plus sucré. Ma douceur du matin, Arthur Asquin.
Oula. On n'allait pas trop loin.
Ouais, c'est bizarre. Ouais, mais je vais entamer avec mon fruit. Avec Quentin Dubois, ce tour de table. Quentin, tu es venu avec une histoire. On va célébrer un titre puisque l'Europe est a désormais, non mais j'y crois pas, un nouveau champion du cirage de pompe.
Eh oui, le concours du meilleur maître cireur de chaussures européen s'est déroulé le week-end dernier à la gare maritime de Bruxelles et c'est l'Italien Gaio Il Calzolaio qui est arrivé premier devant 12 autres cireurs pro ou amateurs, dont un Français sur le podium.
Pas mal.
Il a remporté 500 € et la fameuse brosse dorée. Le concours a été lancé en 2018, mais avec le Covid et les restrictions, la seconde édition n'a pu être organisée plus tôt. C'est l'ESSA, qui est une organisation à but non lucratif, qui organise tout ça. C'est un peu le syndicat des cireurs de chaussures à travers l'Europe.
Bah, c'est génial d'être le meilleur cireur d'Europe, mais concrètement, ça se déroule comment? Un concours de maître cireur?
Alors, il y a 3 chaises installées, un jury de 3 personnes pour celui-là qui note la prestation, technique, qualité du service ou encore relation client, et chaque visiteur est invité à se faire cirer les chaussures. Pour cette édition, c'est près de 500 personnes sur 2 jours qui sont venues profiter d'un cirage gratuit. Il y a eu du boulot.
Ah bah oui, bah... Tant mieux s'ils avaient les souliers qui brillent ce week-end d'événement. Bah, fallait souligner quand même ce titre de meilleur maître cireur de chaussures européen. Géraldine de Maury, on file à Singapour où on apprend à économiser l'eau dès le plus jeune âge.
Eh ben oui, on le sait, hein, avec le réchauffement climatique, les périodes de sécheresse vont être de plus en plus nombreuses, intenses. En France, on est en plein dedans. Et à Singapour, oui, on prend déjà des mesures très fortes pour que les enfants apprennent à économiser l'eau potable. Il y a carrément des rationnements dans les écoles. Alors concrètement, le matin, les élèves peuvent remplir quelques seaux d'eau à un robinet. Et il faudra que ça leur suffise pour la journée, pour se laver les mains avant de manger, pour nettoyer les pinceaux ou encore pour la chasse d'eau des toilettes.
On fait pas tout dans le même seau, du coup. Hein.
Non, c'est pour ça qu'il y a plusieurs seaux. L'idée, c'est de montrer que l'eau, c'est pas une ressource infinie. Qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Objectif du gouvernement, arriver à ne pas dépasser 130 litres d'eau par jour et par habitant. Quand on sait qu'une douche de 5 minutes, c'est déjà 80 litres, et 130,
ah oui, ça
fait pas beaucoup. Vous imaginez arriver à la même chose
en France.
C'est
quoi ton message? Arrêtez de prendre des douches?
Non, c'est
ça que nous dit,
non, économiser l'eau.
C'est fait pipi sous la douche.
C'est fait pipi sous la douche. Voilà, c'est important après le petit-déj ou avant. Pendant.
Non,
Arthur, c'est non.
Il est tôt là, non.
Oui, non, Arthur, non. Arthur, raconte-nous plutôt une histoire. Parle-nous de cette demande en fiançailles qui a failli tourner au drame. Ça s'est passé au Kenya.
Oui, la maman de la future fiancée et son gendre s'étaient mis d'accord pour faire une belle surprise à l'heureuse élue. Il fallait qu'elle découvre la bague par surprise. Alors le bijou est caché dans un grand plat de riz pilao. Apparemment, la jeune femme avait grand faim puisqu'elle a englouti son plat de riz. Et soudain, elle s'est pris les mains à la gorge. La bague s'était coincée dans son gosier.
Oh merde! Oh, c'est con ça!
C'est bête,
ouais. Ouais, on rigole, mais elle aurait pu mourir bêtement, là.
Ouais, alors heureusement, elle est parvenue à avaler le bijou. Dans la foulée, elle s'est rendue aux urgences. Le lendemain, toute la famille l'a retrouvée avec le sourire et la bague au doigt. Le bijou a pu être évacué par ce qu'on appelle les voies naturelles.
Non, mais attends.
Bah, ça se passe souvent après le petit déchet aussi, c'est ça. Avaler la bague, c'est plus fréquent qu'on ne le pense, hein.
Et oui, absolument, parce que d'après une étude menée en Belgique en 2018, une femme sur 5 avalerait la bague de fiançailles lorsque le compagnon à la riche idée de la cacher dans un plat ou une boisson.
Ouais, donc ne faites pas ça, quoi.
Ouais, c'est pas
mal. C'est un peu romantique, mais c'est.
Oh,
c'est
bon, puis c'est vu et revu en plus, non, franchement.
Ah, ok, old school.
Ouais. C'est ringard.
Veto d'Anaïs Castagna. C'est ringard et dangereux, oui, on est.
Ouais,
oui, voilà. Mais surtout s'il y a ce risque d'avaler la bague.
Absolument.
4h58, Anaïs, justement, on passe au journal de Mickey qui vient de publier son classement annuel des personnalités préférées des enfants. Et. C'est un footballeur qui arrive en tête.
Oui, mais pas celui qu'on attend. C'est Olivier Giroud devant Hugo Lloris, deuxième. Et Kiki, Kylian Mbappé, troisième seulement.
Ah ouais,
ça ne doit
troisième.
Pas lui faire plaisir. Ah oui, oui.
Je suis comme ça, j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie de montrer que je suis meilleur que l'autre.
Le rappeur Soprano, qui était le chouchou des enfants de 7 à 14 ans depuis 3 ans, arrive désormais en 4e position devant un autre joueur de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Pas beaucoup de filles dans ce classement, aucune dans le top 10 et deux seulement dans le top 20. Angèle, 14e, et Louane, 20e.
Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer et j'apprends tous les jours à devenir douce.
Géraldine de Mori.
C'est une des chansons préférées de mes filles. Voilà.
C'est pour tes filles, Gégé.
D'où la présence de Louane dans ce classement.
La voix du jour.
Eh oui, tous les matins, on vous offre des cadeaux grâce à la voix du jour.
Oui, il faut reconnaître cette voix qu'on va vous passer. Si vous reconnaissez, c'est simple, vous faites le 32-16 pour gagner.
Et au niveau du jeu, on a donné du spectacle tout en étant efficace au public. Et je pense qu'ils ont dû aimer ça, vu la clameur et l'ambiance. Qu'on va essayer de continuer comme ça, travailler. Et c'est une fierté de marquer pour son pays.
Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme indice? C'est le nouveau capitaine des Bleus, on vient de l'expliquer. Je te donne d'autres indices.
Bah ouais, il fait rêver tous les Français, voilà, notamment les supporters parisiens comme Charles Magnin.
Ah oh ouais, je suis loin d'être le seul à rêver. Moi, je pense que même il a même fait rêver les Marseillais pendant la Coupe.
Oui, c'est vrai.
Pense que même sur la Canebière,
mais est-ce qu'il va rester à Paris?
Ah, bonne question. Voilà, j'ai pas la réponse ce matin, mais peut-être que vous avez la réponse à cette question. Qui est cette personnalité? À qui appartient cette voix? Si vous l'avez reconnue, vous composez juste là tout de suite le 32-16, un petit coup de fil, et si vous êtes rapide, vous gagnez.
Deux places de cinéma pour aller voir le film John Wick 4 avec Keanu Reeves. Ça sort demain au cinéma. Quatrième film de la saga.
Mais ouais, John Wick 4, ça sort demain, mais dès maintenant, vous gagnez vos places au 32-16 si vous avez reconnu la voix du jour, et le gagnant sera en direct avec nous avant 5h30. Avant 5h30, on va aussi retrouver donc le meilleur d'Arnaud Demange pour se marrer. Et puis tout de suite, on va découvrir le choix d'Anaïs.
Je vais vous parler de la mobilisation du milieu culturel contre la réforme des retraites, avec plusieurs prises de position marquantes ces derniers jours. Une tribune notamment qui a ulcéré Bruno Le Maire. Et puis vous verrez aussi ce qu'on pense, tiens, Patrick Bruel.
Ah bah tiens, Patrick Bruel contre la réforme des retraites. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h12, bon réveil à tous sur RMC, c'est l'heure de l'info en plus, le choix d'Anaïs.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Eh oui, Anaïs, tous les matins, tu choisis une info, une actu, une déclaration, une actu que tu as envie de mettre en valeur. Et ce matin, tu as choisi de nous parler de ces artistes, ces intellectuels qui se mettent à dénoncer la méthode employée par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites.
Oui, parce qu'il y a un texte qui a suscité beaucoup de réactions ces derniers jours. Un texte de l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, qui ne cache pas sa sensibilité de gauche. Il a adressé un message à Emmanuel Macron et son gouvernement dans une tribune publiée dans Mediapart ce samedi. Et écoutez ce qu'il écrit. Savez-vous quelle réserve de rage vous venez de libérer? Ce pouvoir est légitime comme la terre est plate. Il pointe aussi du doigt un président élu deux fois, mais sans peuple véritable pour soutenir sa politique de manager, de faiseur de fric et de retraité distrait. Avez-vous pensé, dit-il, à ces corps pliés, tendus, suremployés, qui trimeront par votre faute jusqu'à la maladie, jusqu'à crever peut-être? Ce monde-là n'est qu'une nappe d'essence et vous n'êtes que des enfants avec une boîte d'allumettes. Apolline a soumis ce texte hier à Bruno Le Maire, c'était dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Et écoutez, il n'a pas vraiment apprécié.
Donc je n'aime pas ces propos, je les trouve injustes, insultants, méprisants. Ces 20 années d'engagement politique qui, à travers ces propos un peu faciles d'écrivains, sont remis en cause. 20 années de combat. Et si je fais de la politique, c'est pas pour une partie de la population, c'est pour toute la France.
Nicolas Mathieu, qui n'est pas le premier dans le monde de la culture à avoir pris position contre la réforme des retraites. Je peux encore citer Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, mais aussi Adèle Haenel, Jean-Pierre Darroussin, une centaine de personnalités qui avaient publié une tribune contre la réforme dans l'hebdomadaire Politis au mois de janvier. Tribune dans laquelle il qualifiait le gouvernement d'archaïque. Il dénonçait une réforme qui allait frapper ceux qui exercent les métiers les plus difficiles. Yvan Le Bolloc, tiens, faisait partie des signataires.
Il est allé trop loin, Manu. Il faut... Manu, reviens. Descends.
Manu, tu descends.
Manu, wesh, descends. Tranquille, vas-y, descends, on va s'expliquer tranquillement.
Yvan Le Bolloc qui disait que c'était finalement pas forcément le moment de faire cette réforme. Les temps étaient trop durs pour lui, disait-il.
Oui, mais alors Yvan Le Bolloc, l'écrivain Nicolas Mathieu, tout ça, ce sont des artistes qu'on sait engagés à gauche, et qui sont souvent mobilisés. Là, ce week-end, il y a une nouvelle voix qui est venue s'ajouter à ce monde culturel mobilisé sur la réforme des retraites, c'est celle de Patrick Bruel.
Un des derniers à avoir pris la parole, en effet, sur le sujet, t'as raison, c'était sur le plateau de l'émission Quelle époque sur France 2 samedi soir.
Est-ce qu'il était obligatoire de la faire maintenant? Est-ce qu'on pouvait pas reporter un peu? Ça aurait été intéressant, en tout cas utile, de calmer les choses, de reprendre le débat, de remettre les choses sur la table et de repartir à la discussion. Il y a quelque chose qui a crispé. On a choisi une fracture.
Patrick Bruel qui pose la question du timing lui aussi. Et ce qui est intéressant, t'as raison Charles, c'est qu'il est plus populaire cet artiste. Sa voix porte sans doute davantage. J'ai regardé hier si des artistes avaient pris position pour la réforme. J'ai pas trouvé. Faut dire que quand on sait que 7 Français sur 10 s'y sont opposés, c'est un petit peu risqué.
Ah, c'est un éternel débat. Est-ce que les artistes, est-ce que le monde culturel doit prendre position sur ce genre de sujet politique? Éternel débat.
Est-ce que ça vous influence?
Mais c'est intéressant de noter que Patrick Bruel prend position, en tout cas dans ce débat. À suivre donc, mais ce qui nous intéresse tout ce matin, c'est évidemment votre sentiment, vous ce matin, votre ressenti, votre témoignage. Après le rejet des motions de censure hier à l'Assemblée, le gouvernement sauvé de justesse à 9 voix près, mais donc la réforme qui est considérée comme définitivement adoptée. Colère, manifestations immédiates hier soir dans la rue, dans des dizaines de villes en France, des interpellations aussi, plus de 140 interpellations hier soir, par exemple dans les rues de Paris. Alors est-ce que vous soutenez ces mouvements de blocage, ces manifestants, ces grévistes aussi? On va poser la question à Brice, qui nous appelle de la Meuse. C'est ça, bonjour Brice.
Ouais, salut Anaïs, salut Charles.
Salut Brice. Qu'est-ce que vous faites réveiller de si bonne heure?
Ah, ben, je suis conducteur de train, donc...
Cheminot, SNCF?
Oui, tout à fait.
Et donc pas gréviste aujourd'hui?
Pas aujourd'hui, mais jeudi, oui.
Jeudi, vous serez gréviste. Non, mais il y a encore des grèves aujourd'hui à la SNCF. Ça roule un peu mieux, mais ça va... repartir. Bah non, justement, ça va s'arrêter à nouveau.
Ça va de nouveau s'arrêter.
Voilà. Et alors, Brice, j'imagine, si vous comptez faire grève, c'est que vous êtes opposé à cette réforme. Est-ce que vous croyez encore que la mobilisation, la grève peut faire reculer Emmanuel Macron maintenant que la réforme est adoptée par l'Assemblée?
Bah en fait moi c'est ce que j'ai dit à votre collègue tout à l'heure
à Quentin au standard.
Quentin, ouais. Je lui dis est-ce qu'il peut continuer à faire cette réforme? Oui, il peut. Oui, il peut bien sûr, il peut la faire. Mais est-ce qu'il doit la faire? Non. On voit bien que
Brice, je crois qu'on vous a perdu.
Dans le mur.
Ah.
Ça va dans le mur, ouais. Mais dans le mur violemment.
Oui, c'est ça la crainte. Bah, racontez-nous autour de vous, là, vos collègues, etc. Est-ce que vous sentez ce qu'on appelle une radicalisation du mouvement?
Bah oui, parce que de toute façon, la radicalité, elle est du côté du gouvernement. Dans le sens où ils n'écoutent pas. Vous savez, à 9 voix près, la motion de censure n'est pas passée. Donc, effectivement, elle n'est pas passée loin, la motion de censure. Franchement, ils ont eu chaud, vraiment très chaud. Je suis très déçu. Bon, tant pis, c'est comme ça.
Quelles conséquences ils doivent en tirer, là, du fait d'avoir eu chaud? Est-ce qu'ils doivent, ils doivent retirer la réforme, mais est-ce qu'il faut aller plus loin, changer de gouvernement?
La conséquence qu'ils vont tirer, je peux vous le dire, parce que quand vous voyez Elisabeth Borne avec son petit sourire en coin quand elle fait son discours hier à l'Assemblée, je peux vous dire qu'à 9 voix près, mais ils vont dire qu'ils s'en fichent, parce qu'ils ont quand même 9 voix et qu'ils ont encore cette majorité et qu'elle n'est pas passée, et que même à une voix près, si la motion de censure n'était pas passée, pour eux, ils sont encore légitimes et ils ne vont pas changer la façon de gouverner. Et ça, les gens, ils l'ont bien compris, ils le savent.
Et donc, certains vous diront ce matin à quoi ça sert alors de continuer le combat si vous savez que de toute façon, ça sert à rien.
Bah parce que de toute façon, les gros combats ont fait quand même plier les gouvernements avec des lois qui ont été promulguées. Donc de toute façon, les gens vont continuer. Sauf que, comme disait un monsieur tout à l'heure, que j'ai entendu précédemment, c'est dommage, on est dans un pays civilisé, mais on a entendu que, vous voyez, j'ai fait toutes les manifs là, toutes les manifs avec les syndicats, ça sont toujours toutes passées dans le calme. Mais on n'est pas entendu.
Oui, c'est l'impression qu'on a, c'est que le gouvernement surveille plus les points chauds où il y a des violences, des débordements, plutôt que le monde. Alors juste, Brice, quittez pas, parce que j'aimerais qu'on donne aussi la parole à Anthony, qui lui nous appelle de Gironde, c'est ça? Bonjour Anthony.
Bonjour tout le monde.
Anthony, racontez-nous vous ce que vous faites réveiller de si bonne heure, vous êtes au boulot déjà?
Eh ben oui, moi je suis commercial, je travaille avec tout ce qui est artisan dans les métiers de bouche.
D'accord.
Moi je suis pas pour travailler. Alors je vais vous dire clairement, je suis pas pour travailler 2 ans de plus. Hein. Moi j'ai 49 ans, donc sur le papier il me reste 14 ans à bosser, plus 2 éventuellement. Donc, moi, j'y pense pas trop à la retraite, parce que d'ici là, ils auront certainement fait une ou deux réformes de plus. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'entends la colère de tous là. Le problème, c'est que ils bloquent toujours les mêmes. C'est-à-dire que on va bloquer les carburants, on va bloquer les camions, on va si on va là. Mais quand il n'y aura plus de carburant, que les gens, ils auront plus rien à bouffer, ça va se passer comment? Parce que dans ces cas-là, qu'ils aillent les éboueurs, qu'ils aillent vider les poubelles devant les préfectures, devant l'Assemblée, qu'ils bloquent la cantine du Sénat, voyez, mais qu'ils emmerdent vraiment nos politiques, mais tous, opposition comprise, parce que ce sont tous des guignols. Quand on voit hier depuis quelque temps l'Assemblée avec la NUPES qui sort des banderoles, mais c'est la maternelle, quoi. On a l'impression de voir Dimanche Martin, quoi. C'est une blague.
C'est un sketch.
Donc, ne vous trompez pas de cible, les gars, parce qu'on est tous dans la même galère. Mais par contre, vous allez faire crever comme a appelé une commerçante hier chez Estelle. Ouais. Vous allez faire crever le peuple. Et vous rendez pas compte. Je vous raconte une petite anecdote. Je travaillais avec des bouchers charcutiers. L'autre jour, j'ai un client qui m'appelle. Il me dit, tiens, Anthony, tu vas être mort de rire parce que je livre 100 kilos de saucisses, 100 kilos de merguez pour la CGT éboueur dans le Blayais.
Eh ben, ça fait tourner le commerce, ça, en l'occurrence, Anthony.
Ça fait tourner le commerce, mais par contre, s'il bloque tout, que mon client, il a plus de viande, qu'il a plus d'épices, qu'il a plus de ci, qu'il a plus de là, comment ils vont faire pour bouffer, là, pour faire leur petit
sardin dedans, là? Incroyable, Anthony, vous avez raison. Là, c'est le serpent qui se mord la queue. Si les grèves privent les manifestants de merguez, en effet, il va y avoir un vrai souci.
On est bien d'accord.
Vous avez raison, Anthony.
Vous ne trompez pas de cible, messieurs. Enfin,
c'est intéressant ce que vous dites, Anthony. Vous dites, sur le fond, je comprends, je suis opposé à cette réforme. Aussi, mais attention à la méthode, c'est ça.
Mais bien sûr, moi je suis un petit patron, j'ai 4 salariés, donc moi j'ai pas envie non plus de travailler jusqu'à 70 balais, hein, ça c'est clair. Hein. Mais par contre, je suis obligé de me lever le matin, à 4h30 je suis à la douche, et je suis obligé d'aller bosser, parce que si je travaille pas, je vends pas, si je vends pas, je paye pas mes crédits, je paye pas mes salaires, je paye pas mes charges. Qui d'ailleurs, encore une fois, comme tout le monde le dit, on est surchargé, ça c'est sûr, on le sait, mais on n'a pas le choix. Le problème, vous ne trompez pas les gars, on ne pourra pas fermer 68, enfin vous ne pourrez pas.
C'est tout le débat aujourd'hui, c'est quelle tournure doit prendre la mobilisation, la contestation, est-ce qu'il faut tout bloquer? Brice racontait à l'instant, en tant que cheminot, le fait que malgré les manifestations pacifiques, ça n'avait pas fait bouger le gouvernement, que ça expliquait aussi pourquoi la tension, la violence montait d'un cran, mais vous Anthony, vous dites attention là, tous ces blocages, etc., le durcissement du mouvement. Attention aux conséquences pour le quotidien des uns et des autres. Attention à qui on impacte directement avec ces blocages, notamment, je pense, aux raffineries aussi. Hein, Anthony, vous avez raison de le souligner. On va continuer à en débattre ce matin, mais je vous remercie pour vos témoignages, Brice et Anthony, tous les deux opposés à la réforme, mais pas forcément d'accord sur la méthode, sur les blocages, les manifestations. Venez nous le dire ce matin, vous. Est-ce que vous soutenez toujours ces mouvements de blocage, de grève, des éboueurs dans les raffineries, chez EDF aussi? Venez nous le dire ce matin au 32-16. Et puis, est-ce que la situation est tenable pour le gouvernement? Là aussi, on vous attend ce matin. On va continuer à en débattre avec vos témoignages. C'est comme ça qu'on avance, évidemment, vous le savez, le matin sur RMC. Mais tout de suite, on va aussi se détendre un peu. On va sourire avec le meilleur d'Arnaud Demanche. C'est dans un instant sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Tous les jours de manche.
Aujourd'hui, l'Assemblée va se prononcer sur la motion de censure portée par le groupe Piot de Charles Amédée de Courson.
Oui, n'est-ce pas? Ça s'annonce très compliqué, hein, évidemment. C'est quasiment motion impossible. Sympa. C'est une vanne de Laurent Neumann qui est passé dans les couloirs et qui m'a dit « Fais-la !» Eh ben, je la fais,
ouais.
C'est pour toi. Alors déjà, c'est quoi le groupe Piot? Eh bien, c'est Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Ce sont donc des élus centristes d'outre-mer et des nationalistes corses. Leur programme, c'est donc de promouvoir la libre concurrence intra-européenne, le brochu corse et le rhum antillais. Si vous voulez, Charles de Courson, c'est un peu la synthèse entre Valéry Giscard d'Estaing, Imouvrini et Francky Vincent. Alors, il y a une semaine, personne ne le connaissait, cet homme-là, mais maintenant, c'est un peu Charles Amédée, un mélange entre Che Guevara et Beyoncé. C'est la star, c'est l'homme qui peut faire couler le gouvernement et stopper la réforme. Les mômes mettent des posters de lui dans leur chambre. Ses discours sont encore plus streamés que les chansons de Miley Cyrus sur Spotify. Les gamins, ils sont là. T'écoutes quoi en ce moment? Ben, moi, en ce moment, je me fais tous les albums de Charles Amédée de Courson. Là. Il a sorti un putain de son sur le coût du chauffage collectif au gaz dans les logements sociaux pendant la séance de la commission des finances du 18 janvier 2023. C'est masterclass de chez Carré dans l'Axe, ma gueule. Charlito, c'est le sang. Bref, Vous avez peut-être, vous le savez peut-être, mais faire tomber les monarques, c'est une tradition familiale chez les deux Coursons. Charles Amédée est le descendant direct du marquis de Saint-Fargeau, député de la noblesse aux États généraux, qui vota l'exécution de Louis XVI. Donc moi, je serai Macron, je me barrerai vite en vacances, dès cette semaine. Allez, autoroute A4, on sort à Meaux, on prend la D603, direction Châlons-en-Champagne, puis Varennes, et là, diantre. Mais que faites-vous devant mon carrosse républicain ? Fuyez, vilain gilet jaune, ou je vous rosserai 49,3 fois. Je ne suis pas un gilet jaune. Je suis le marquis Charles Amédée de Courson, comte d'Apremont et de Papincourt, fils d'Aldebert de Malfaite et de Thibaut de Montfaucon, prince du Lyot, représentant des centristes de Patrick Fiori et de la Compagnie Créole. Rendez-vous, sire, et suivez-moi à la Bastille. La Bastille, pour voir un opéra chiant comme la mort. Jamais.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de
Et
manche.
C'est tout à l'heure, on retrouve Arnaud évidemment à 7h20 et 8h20 en direct, on a déjà hâte en cette, au lendemain du rejet de la motion de censure de l'entendre sur RMC, ce sera à 7h20 et 8h20 dans Apolline Matin, mais tout de suite à 5h26 on vous fait gagner
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Jérémy qui a été le plus rapide pour jouer avec nous. Jérémy qui est dans le Maine-et-Loire, c'est ça? Bonjour Jérémy.
Bonjour, oui, c'est dans le Maine-et-Loire.
Bonjour Jérémy, comment ça va?
Ça va très bien.
Levé tôt pour le boulot Jérémy?
Non, là je rentre, là je travaille de nuit.
D'accord, vous avez travaillé cette nuit, ça s'est bien passé?
Oui, oui, oui.
Eh bien, on va finir la nuit en beauté, Jérémy. Voilà. Enfin, on va voir si
on va
vous
voir si
gagné.
On vous envoie au cinéma. On réécoute la voix du jour, on a votre réponse dans la foulée.
Et au niveau du jeu, on a donné du spectacle tout en étant efficace au public. Et je pense qu'ils ont dû aimer ça, vu la clameur et l'ambiance. Qu'on va essayer de continuer comme ça, travailler. Et c'est une fierté de marquer pour son pays.
Alors, est-ce que vous l'avez reconnu, Jérémy?
Oui, c'est Kylian Mbappé.
Et c'est gagné, le nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui vous permet de gagner
Des places de ciné, deux places pour aller voir John Wick 4 au cinéma. Ça sort demain en salle.
Et ben, on vous envoie tout ça, Jérémy. Ben voilà, une nuit qui se termine bien avec RMC. Ben, on vous raccompagne. On vous souhaite quoi? Alors, bonne journée ou bonne nuit, là, Jérémy? Comme vous voulez.
Une petite bonne nuit quand même, et puis bonne journée après.
Et ben voilà, une bonne nuit et une bonne journée, les deux, et vos deux places
bonne
de ciné. Quittez pas, Jérémy, on prend vos coordonnées en antenne pour vous envoyer vos places de ciné, et évidemment, la voix du jour revient demain dès 5h pour récompenser les leftos sur RMC. Mais à 5h28, c'est l'heure de l'info bonus. Bah tiens, on parle ciné justement, puisque Anaïs, c'est le dernier jour pour profiter du printemps du cinéma, avec aujourd'hui des places à 5€ dans tous les cinémas de France.
Oui, et une question, l'opération va-t-elle profiter à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, en salle depuis février? Pour l'heure, le film a réalisé 4,5 millions d'entrées. L'équipe du film souhaite passer la barre des 5 millions à l'occasion du printemps du cinéma. Ce qui est tout à fait possible vu le monde qui va au cinéma ces jours-ci. L'an dernier, la fréquentation des salles avait augmenté de 70% lors du printemps du cinéma, mais les places étaient à 4€ contre 5 cette année en raison de la hausse des coûts de l'énergie. En revanche, ce qui est sûr, Charles, c'est qu'il ne sera pas rentable ce film. Il fallait 6 millions, donc ça sera forcément pas plus de 5. Donc, voilà.
Bah, c'est beaucoup, 5 millions d'entrées, mais par rapport au budget, voilà. Bah, en fait, ils vont perdre de l'argent. Ouais, c'est un succès en demi-teinte.
Exactement.
Comme ça pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. 5h29 sur RMC. Thibaut Texer vient de s'installer dans ce studio pour le journal de 5h30 dans un instant. Mais d'abord, on va faire un point sur vos conditions météo du jour avec Géraldine Demory.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h39, bon réveil sur RMC. Nous sommes au lendemain du rejet de la motion de censure à l'Assemblée, mais le gouvernement peut-il vraiment maintenir la réforme?
C'est la question du jour sur RMC.
Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
9 voix, ça s'est joué à 9 petites voix près hier pour la motion de censure du groupe Liot à l'Assemblée. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a donc été sauvé de justesse et la réforme des retraites est considérée aujourd'hui comme définitivement adoptée.
Pour autant, est-ce que son entrée en vigueur est désormais inéluctable? Eh bien non, les députés de gauche du Rassemblement National ainsi que la Première Ministre elle-même vont saisir le Conseil constitutionnel pour s'assurer de la conformité du texte avec la Constitution. Et au-delà de ça, les opposants veulent continuer la bataille par tous les moyens possibles. C'est ce que nous explique Cyprien Pézeril.
Des députés insoumis qui déroulent dans l'Assemblée une banderole siglée « On continue » et qui entonnent une nouvelle fois un chant de manifestants. Bref, pas question de lâcher le combat, dit leur présidente de groupe Mathilde Panot.
Rien n'est fini dans ce pays.
Nous continuerons jusqu'au retrait du texte. Et dès jeudi, l'intersyndicale a appelé dans tout le pays à des manifestations qui permettront, je l'espère, de censurer de manière populaire ce gouvernement et d'enfin enterrer cette réforme des retraites.
Une lutte que la gauche compte aussi poursuivre à plus long terme en réclamant que les Français puissent s'exprimer dans les urnes. C'est ce que demande notamment le communiste Pierre Dharréville.
Nous avons d'ores et déjà transmis une demande de référendum d'initiative partagée. Le référendum d'initiative partagée nous donne aussi une perspective pour redonner la parole au peuple et pour apporter une sanction démocratique à cette réforme qui est illégitime.
La demande doit maintenant être approuvée par le Conseil constitutionnel. Si elle l'est, s'ouvre alors une période de 9 mois pendant laquelle il faudra recueillir 4,7 millions de signatures pour qu'ensuite un référendum puisse être organisé.
Cyprien Pézeril du service politique d'RMC. Voilà, on entend les recours politiques. Bon, ça va prendre un certain temps. Mais dès hier, les opposants à cette réforme sont descendus dans la rue. De nouvelles manifestations spontanées, sauvages, à Paris notamment cette nuit. Des tensions dans le centre de la capitale. Quelques poubelles brûlées et plus de 150 interpellations.
Mais il n'y avait pas qu'à Paris. Un rassemblement aussi à Strasbourg, Marseille, Rennes ou encore à Toulouse où un millier de personnes se sont réunies hier soir en plein centre-ville. Des manifestants plus déterminés que jamais.
La grève s'amplifie, la grève continue. On avait peu d'illusions sur la question de cette motion de censure, comme on a peu d'illusions depuis le début sur la question du Parlement. Donc on va continuer à lutter.
En faisant grève, hein, en ne se rendant pas au travail le matin et en leur disant eh ben, non, je ne suis pas au travail, je suis sur les ronds-points, je suis sur les axes de communication à bloquer mes routes. Il faut hausser le ton à la hauteur du mépris qui nous est opposé.
Ce gouvernement est plus illégitime que jamais. En fait, on va les mettre dehors. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'objectif de la mobilisation.
Vous entendez l'objectif de ces manifestants qui veulent hausser le ton, multiplier les grèves, les blocages. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous soutenez la grève des éboueurs, les grèves dans les raffineries aussi? Venez nous le dire ce matin au 32-16. Est-ce que la rue peut encore faire plier le gouvernement? Vous venez nous le dire au 32-16. C'est ce qu'a fait Damien qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Tiens, d'Istres. Bonjour Damien.
Oui, bonjour.
Bonjour Damien.
Damien, vous êtes sur la route?
Non, là, je suis au travail, je suis à l'usine, là, justement, là, je suis passé devant les raffineries, là.
Ah, alors racontez-nous, est-ce que vous êtes allé au travail en voiture? Est-ce que ça roule? Est-ce que vous avez trouvé du carburant, là, dans votre secteur?
Moi, je sors de 4 jours de repos, impossible de trouver du carburant. On est à sec de tous les côtés. Hier, il restait un peu de diesel dans une station, là, il y a les mecs qui se sont tapés sur la gueule.
C'est-à-dire qu'on se bat pour faire le plein, là? Littéralement.
Carrément. Il y en a qui veulent doubler, tout le monde est dans la même situation, mais bon, il y en a qui veulent doubler tout le monde, il y en a qui sont sortis, ça m'est venu aux mains. Et là, ce matin, je suis passé devant les raffineries, là. Il y a les flics de tous les côtés, ils ont mis les capuchons au bord de la route, il y a les camions qui attendent pour partir, là, c'est le bordel complet, là.
Alors, on l'entend, ce bordel avec vous, Damien, mais est-ce que vous les soutenez, ces grévistes?
Bien sûr qu'on les soutient. Et Macron, qu'est-ce qu'il nous fait encore, Manu, là? Et avec son 49-3, là. C'est normal que tout le monde soit en colère, là. Attendez. Moi, j'ai mon chef, là, il est à côté de moi, il a 61 ans. Quand on va dans l'état qu'il est, pêcheur. Je me dis, à 64 ans, on va être commun à l'usine. Nous, on bosse en 3-8, là. C'est compliqué, hein.
C'est intéressant. Et le chef, il est d'accord avec vous? Il soutient aussi les grévistes?
Ah ouais, lui, il est d'accord, à 64 ans, quoi. Il voyait le bout du tunnel.
Comment il s'appelle, le chef? Vous voulez nous le passer, là, Damien? Il vous entend, là?
Il s'appelle Roland, mais bon, tu veux parler, Roland? Ah, mais il veut pas trop parler, mais il est un peu timide, Roland.
Eh ben, on le salue quand même. Vous l'embrassez de notre part, Roland. Mais alors, Damien, on entend votre soutien, et pourtant, vous constatez directement sur la route, etc., du côté de chez vous, ces blocages, ces stations à sec. Bougez pas, Damien, on va accueillir aussi Emilio, qui lui, alors, on va traverser la France d'est en ouest. On part à Bordeaux, en Gironde, c'est ça? Bonjour, Emilio.
Oui, bonjour Charles.
Alors Emilio, vous, chauffeur poids lourd, c'est ça?
Oui, chauffeur poids lourd, oui.
Déjà
oui.
Au boulot là, de bonne heure, déjà sur la route avec RMC?
Depuis hier soir, 22h, je suis parti, moi.
Depuis hier soir, alors Emilio, vous aussi, vous suivez du coup l'actualité, les motions de censure rejetées, mais ces manifestations, ces grèves, ces blocages qui se poursuivent et qui s'intensifient, est-ce que vous les soutenez, Emilio?
Non, pas du tout.
Pas du tout? Vous êtes plutôt favorable à la réforme?
De toute façon, la réforme, il va falloir bien sûr faire quelque chose, parce que les gens, tout le monde critique, mais à un moment donné, il va falloir agir quand même, parce que ce qu'il est en train de faire, Macron, moi je pense que il a le droit de il n'a pas pris les gens en tête, quoi. Il a, avant de faire cette loi, il avait dit à tout le monde que qu'il allait réformer la retraite. Donc je vois pas pourquoi les gens aujourd'hui, tout le monde soit, ils sont tous étonnés de voir.
C'est pas qu'ils sont étonnés, c'est qu'ils sont opposés, Emilio. Là, c'est des Français. C'est pas qu'ils sont étonnés, les Français là, c'est qu'ils sont opposés au fond et à la forme aussi. On voit bien que c'est le 49-3, le passage en force, comme on dit, qui a multiplié les colères un peu partout dans le pays. Est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce que cette réforme a une légitimité quand on voit comme elle est passée de justesse?
Ben il y a jamais une bonne méthode. De toute façon, il va falloir voter le test. Donc
le texte il est adopté à l'Assemblée. Donc pour vous, Emilio, c'est fini, on passe à autre chose, c'est voté.
On passe à autre chose. De toute façon, les Français ils sont jamais contents. C'est des bébés gâtés. C'est comme ça, ils ont fatigué Hollande jusqu'à il a pas pu faire son deuxième mandat. Donc il faut qu'ils arrêtent un peu, quoi.
Pour vous c'est des grèves d'enfants gâtés. C'est ce que vous dites, Emilio. Oui. Bah, je suis pas sûr que Damien, vous êtes encore là, Damien. Ah, ben, j'étais sûr que ça vous ferait réagir. Vous entendez Emilio qui dit voilà, on peut.
Emilio, je suis pas d'accord avec toi là, Emilio.
Comment?
Je suis pas d'accord avec toi, Emilio là. Attends, Macron il fait passer un peu ce qu'il veut là, c'est pas normal
Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais je vous dis, les Français, nous sommes des bébés.
C'est la majorité de la France qui n'est pas d'accord.
Mais non,
la majorité. Le 49-3, c'est qu'ils savaient qu'à un moment donné, ça allait pas passer. Mais
pourquoi il y a eu le 49-3?
Il y a eu la motion de censure, à 9 voix près, ça s'est joué. À un moment donné, c'est qu'ils savaient que ça allait pas passer. Et non, tu vas aller travailler jusqu'à 64 ans avec la canne. Et ça après, mais les mecs, ils vont partir à la retraite avant, ils vont pas toucher leur retraite plébo, ils vont économiser ben des roses sur ça. Mais Macron, il faudrait qu'il vienne à l'usine avec nous en 3-8 là, dans le cafouch là. Il va voir comment ça se passe s'il va travailler jusqu'à 64 ans. Parce que nous, Macron, là, s'il vient à l'usine, on va le faire charbonner. Il va vite changer d'avis avec le palois du 49-3, je te le dis, moi.
On entend votre détermination, Damien. Je suis pas sûr qu'on vous mette d'accord avec Emilio sur le fond de cette réforme.
Il s'appelle comme mon fils,
vous avez un fils qui s'appelle Emilio.
Eh oui.
Nous, on pense travailler et niquer. Le reste, là, on s'en fout. Voilà.
Bon, bah écoutez, Emilio, ça je vous laisse mon propos. Ouais. On va arrêter le débat là, mais Emilio et Damien, au moins c'est très concret ce matin. On entend vos réactions, j'ai envie de dire, à chaud, après cette soirée encore agitée dans les rues, suite au rejet de la motion de censure hier à l'Assemblée. On entend bien que, j'ai envie de dire que tout le monde est à cran aujourd'hui dans les deux camps, que ce soit les pro-réformes, on entend bien la fébrilité de la majorité aussi, Elisabeth Borne plus affaiblie que jamais. Et puis on entend aussi la colère des opposants, leur détermination aussi aux grévistes, à ceux qui veulent bloquer, à ceux qui soutiennent aussi ces grèves, comme vous Damien, vous nous dites je suis au boulot ce matin, je suis à l'usine, mais je suis passé devant les raffineries bloquées du côté de Fos, dans tous les Bouches-du-Rhône, il n'y a plus de carburant, ce que vous nous avez dit Damien ce matin autour de chez vous, dans tout le secteur, vous nous parlez de tensions, de bagarres même à la pompe, où on se double dans les rares stations-service encore ouvertes, voilà la tension ce matin un peu partout dans le pays, on l'entend aussi avec vous au 32-16, vous n'hésitez pas, comme Emilio, comme Damien, à venir prendre la parole ce matin, à témoigner en alors qu'on sent bien qu'au lendemain de l'adoption définitive du texte, on est loin d'en avoir fini avec ce conflit autour de la réforme des retraites, de cette crise politique et désormais sociale. C'est avec vous que ça va se passer ce matin au 32-16, notamment dans Apolline Matin. Apolline arrive dès 6h30 sur RMC et RMC Story. D'ici là, on va aussi recevoir une représentante des étudiants, parce que dans les facs aussi, on se mobilise. Une cinquantaine de facs d'universités ont voté des blocages, des mobilisations hier. Est-ce que la jeunesse peut faire basculer cette contestation de la réforme des retraites? On va en parler juste après le journal de 6h. Mais tout de suite, vos deux rendez-vous avec Anthony Morel d'abord. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Au menu de C'est déjà demain.
On va faire un petit peu de ménage.
C'est le moment.
C'est le moment. On oublie l'aspirateur, on oublie la serpillière. Je vais vous présenter la maison de demain qui se nettoiera toute seule.
Ça, c'est cool. Arthur est déjà heureux. Et Arthur va nous faire sourire avec son histoire.
Ouais, moi, je vais vous sauver la vie. Rien que ça.
Deux belles promesses avec Arthur et Anthony. C'est tout de suite sur RMC. Mais d'abord, à 6h10. Pour les leftos, là, si vous venez de vous réveiller, si vous venez de vous brancher sur RMC, voici les trois infos à la une ce matin avec Anaïs.
La colère qui ne redescend pas, de nouvelles manifestations sauvages, spontanées, ont eu lieu hier soir un peu partout en France après le rejet des motions de censure, notamment à Paris, où les manifestants justifient le recours à ce mode d'action. Écoutez.
Disons qu'on a utilisé toutes les procédures courtoises. On n'a pas été entendu. Le gouvernement passe son force. C'est aussi pour un peu exprimer la colère du peuple.
Malgré le rejet des motions, l'entrée en vigueur de la réforme des retraites n'est pas encore acquise. Deux recours seront déposés aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Et puis la grève se poursuit à la fois chez les éboueurs et dans les raffineries. Il n'y a plus aucun produit qui sort à 7h de l'ensemble des raffineries de France, a annoncé hier la CGT Chimie. Kylian Mbappé portera le brassard de capitaine de l'équipe de France vendredi soir contre les Pays-Bas. Il a été choisi par Didier Deschamps pour succéder à Hugo Lloris. Et tiens, on va y revenir tout à l'heure dans la Story Sport à 6h20 sur RMC et RMC Story.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Oui, Kassaf, de bon matin, parce que c'est le printemps et qui dit printemps dit ménage, ménage de printemps. Tu nous dis que la tech va nous faciliter la vie avec notamment de nouveaux matériaux révolutionnaires. La maison de demain va devenir auto-nettoyante.
C'est presque ça, ouais. On va utiliser les avancées dans le domaine des nanotechnologies. Il y a plein de matériaux, alors dits auto-nettoyants, qui sont en train d'arriver ou qui sont arrivés sur le marché ces dernières années. Vous avez peut-être déjà à la maison d'ailleurs des vitres auto-nettoyantes. Ça fonctionne très très bien.
Attendez,
c'est génial. C'est les vitres, en fait, la saleté va même pas accrocher. Et avec la pluie, elles vont se nettoyer toutes seules, mais sans laisser de traces. C'est extraordinaire.
C'est génial, parce que c'est tellement chiant à faire les carreaux.
Et en fait, t'as la même technologie.
Le cri du cœur d'Anaïs.
Mais bien sûr, elle a raison. Sur le carrelage.
Parce qu'il faut les laver, les carreaux.
Et en fait, le truc, c'est que la technologie, c'est la même chose à chaque fois. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle la photocatalyse. En fait, à l'intérieur de ces vitres, de cette céramique, de ce carrelage, vous allez avoir des nanoparticules, et notamment ce qu'on appelle du dioxyde de titane. Et la particularité de ça, c'est qu'au contact de la lumière, ça crée une réaction chimique, que ce soit lumière artificielle ou lumière du soleil. Et en fait, toutes les saletés vont se désagréger automatiquement.
Alors, je renverse mon café par terre sur le carrelage de la cuisine.
Ouais.
Il va disparaître tout seul.
Non, alors il disparaît pas. Si tu mets du café, il faut quand même passer un petit coup d'éponge. Faut pas rêver. Mais par exemple, les bactéries qui s'accumulent au fil des jours, elles vont être supprimées instantanément.
On aura des maisons anti-Covid.
On aura des maisons anti-Covid. Évidemment, c'est des technologies qui sont aussi beaucoup développées avec le Covid. Mais ce sont des choses qui fonctionnent très très bien, y compris sur les canapés. T'as des canapés anti-taches qui fonctionnent également.
Pour les plus maniaques, un autre accessoire qu'on trouve notamment sur Internet, ce sont des lampes tueuses de virus.
Ouais, alors ça c'est très étonnant, ça ressemble à une lampe de poche ou à un néon qui émet une lumière bleutée et il suffit de pointer cette lampe sur n'importe quelle surface pour la désinfecter. Là aussi c'est une technologie qui a vu son heure de gloire avec le Covid, on utilise en fait ce qu'on appelle des rayons UVC. Les rayons UVC c'est des rayons qui ont la particularité de tuer tout ce qu'ils touchent, c'est-à-dire les micro-organismes, toutes les saletés, les virus, les bactéries. Alors le problème, c'est que faites attention si vous en achetez, c'est que c'est dangereux, c'est-à-dire que si vous pointez la lampe sur une surface, ça va très bien, si vous la pointer sur votre peau ou sur vos yeux, ça peut être très dangereux. Ah oui. Donc voilà, faut faire attention, surtout si vous avez des enfants, à l'utilisation que vous en faites. Mais par contre, c'est très efficace.
Mais le rêve, ce serait quand même les toilettes qu'on n'aurait plus besoin de nettoyer.
Ah mais bien sûr, et là aussi, tu as des pistes de recherche hyper intéressantes, et notamment le robot nettoyeur de toilettes. De la même manière que tu as le robot aspirateur, et ben là, c'est un siège de toilette équipé en fait d'un bras robotique couplé à une brosse mobile et un capteur qui va modéliser l'intérieur de la cuvette. Quand tu veux nettoyer, tu fermes le couvercle, t'appuies sur le bouton, le moteur s'active et cette brosse robot va se mettre en marche et tout nettoyer pour toi. Donc c'est les toilettes, voilà, qui se nettoient toutes seules. Pas mal.
Faut pas être assis dessus. Oui, voilà, c'est exactement ce que je pensais.
Chacun son truc.
Et bah, puisqu'on est dans la finesse, c'est l'heure d'Arthur Asquin.
RMC, Charles Matin. L'histoire d'Arthur.
Tiens, et Arthur, tu vas faire rêver Anthony, puisque tu vas nous donner envie d'acheter une montre connectée.
Oui, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Et apparemment, justement, autour de cette table, seul Anthony va s'en sortir. À l'automne dernier, Ken Cunningham, un habitant de Cleveland aux États-Unis, reçoit sur son Apple Watch une petite alerte. Son application de santé signale que sa fréquence respiratoire est passée de 14 à 18 respirations par minute. Alors, il est un peu hypochondriaque, il se rend aux soins ambulatoires de l'hôpital. La radio ne montre rien et Ken repart avec des médocs contre la bronchite.
Ouais, c'est utile, mais on ne serait pas mort.
Non. Mais un peu plus tard dans la journée, Anaïs, nouvelle alerte. Cette fois-ci, la tension monte d'un cran. L'appli lui signale que son taux d'oxygène dans le sang vient de chuter brutalement. Retour à l'hôpital, passage cette fois-ci au scanner qui révèle des caillots de sang partout dans les poumons de Ken. D'après les médecins, s'il s'était couché ce soir-là au lieu de venir aux urgences, eh ben il ne se serait pas réveillé le lendemain.
Incroyable.
Ouais, il est sauvé par son amour.
C'est dingue, mais il y a
ça me donne envie d'acheter
l'homme
connecté.
Ça,
voilà.
Là, c'est le taux d'oxygénation, mais c'est souvent l'électrocardiogramme aussi, ouais, qui a sauvé plein de vies. Hein. C'est très étonnant.
Ouais. Et voilà, des applications concrètes de, ouais, de ces gadgets connectés.
Ouais, la tech sauve des vies.
La tech sauve des vies, voilà, c'est le message d'Anthony et d'Arthur. À retrouver tous les deux d'ailleurs sur l'appli RMC en podcast quand vous le souhaitez. À 5h55, l'info bonus d'Anaïs avec le journal de Mickey qui vient de publier son classement des personnalités préférées des enfants. C'est un footballeur qui arrive en tête.
Oui, mais pas celui qu'on a. C'est Olivier Giroud devant Hugo Lloris, ouais, et Kylian Mbappé. Troisième seulement, le rappeur Soprano, qui était le chouchou des enfants de 7 à 14 ans depuis 3 ans, arrive seulement quatrième devant un autre joueur de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Pas beaucoup de filles dans ce classement, aucune dans le top 10. Deux seulement dans le top 20, Angèle, 14e, et Louane, 20e. Comme toutes les
filles. Olivier Giroud, le préféré des enfants et des ados, c'est le classement du journal de Mickey. Avec ce sondage, on vous retrouve tout de suite sur RMC avec le journal de 6h dans un instant, la météo aussi, tout ça, ça se passe sur RMC à la radio, mais aussi à la télé sur RMC Story, ça démarre tout de suite là, on vous retrouve sur le canal 23 de la TNT. Il est 6h, bon réveil à tous sur RMC.
RMC Charles Matin.
À 6h, le journal vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Encore une soirée de tension à Paris et dans des dizaines de villes en France après le rejet de la motion de censure et l'adoption de la réforme des retraites. 171 interpellations dans la capitale. Le gouvernement sauvé à 9 voix près hier à l'Assemblée. C'est une tempête politique qui s'ouvre, des consultations toute la journée autour d'Emmanuel Macron, on va vous expliquer. Et puis faire le plein, qu'il devient de plus en plus compliqué ce matin. Une station sur deux à sec dans la région de Marseille. Des premières mesures de restriction dans le sud de la France.
Et puis les jeunes vont-ils entrer dans la contestation, dans la mobilisation? Ils sont de plus en plus nombreux dans la rue. On parle d'une cinquantaine de facs bloquées ou occupées par les étudiants. Les jeunes peuvent-ils faire basculer le rapport de force avec le gouvernement? On va en parler avec Éléonore Schmitt, porte-parole du syndicat étudiant L'Alternative. Elle est avec nous dans ce studio dans un instant. Paris, mais aussi Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Dijon, c'était encore une soirée sous haute tension dans toutes ces villes.
Le rejet des motions de censure et donc l'adoption de la réforme des retraites a fait descendre dans la rue des milliers de personnes partout en France, comme à Paris, pour le cinquième soir de suite, quartier de l'Assemblée, de l'Opéra et de la Bastille, nous raconte Rémi Inc pour RMC.
Par petits groupes, les manifestants se déplacent dans plusieurs quartiers de la capitale. Les policiers lancent parfois du gaz lacrymogène ou procèdent à des interpellations. Mais difficile de stopper une manifestation sauvage, il fallait passer à ce mode d'action pour Clément.
Bah, disons qu'on a utilisé toutes les procédures courtoises et on n'a pas été entendu. Le gouvernement passe en force, donc on passe en force. C'est aussi pour un petit peu, je pense, marquer le coup et un peu exprimer la colère du peuple.
Une colère qui va continuer pour cette manifestante.
Ça suffit, il faut bien comprendre que cette colère est légitime.
C'est aussi l'avis de Colin, 18 ans.
C'est clairement du ras-le-bol, ouais. Juste le fait qu'on ne soit pas écouté depuis des mois, bah, la manif, elle va continuer. Hein. Moi, j'ai toute confiance en le fait que ça va juste se poursuivre sur des jours, des semaines, s'il faut. Enfin, je ne sais pas à quel point on pourra faire tomber le gouvernement, mais on va continuer. C'est pas juste on veut casser pour casser, c'est... On a un message à faire passer et il faut qu'il soit entendu.
Effectivement, très peu de casses dans Paris, mais ce jeu du chat et de la souris avec la police s'est poursuivi jusqu'au cœur de la nuit.
171 interpellations donc et 11 blessés parmi les forces de l'ordre à Paris où les insoumis ont fait le tour des commissariats hier soir pour dénoncer les arrestations qu'ils jugent arbitraires. Arrêter le massacre, dit même la députée insoumise Raquel Garrido en faisant référence à un manifestant violemment frappé par un policier, une scène qui a d'ailleurs été filmée. Ça s'est donc joué à 9 voix près hier à l'Assemblée. La motion rejetée donc à 9 voix, 19 députés LR finalement l'ont votée. Le gouvernement d'Elisabeth Borne échappe à la censure mais pas à la crise politique. Il va y avoir des consultations toute la journée autour d'Emmanuel Macron, le président, les cadres de la majorité. Ce matin, les présidents de l'Assemblée et du Sénat pour déjeuner, les parlementaires de la majorité en début de soirée. Sébastien Krebs du service politique à RMC en direct avec nous ce matin. L'idée, c'est de trouver en fait une réponse à la crise.
Oui, comment relancer le quinquennat alors que la situation, on l'a vu, se tend dans les rues? Comment reprendre la main? Avec qui? Avec quel projet? Voilà tout ce que le président doit trancher et il n'a pas le luxe d'attendre, disait-on hier au sein d'un cabinet ministériel. En attendant, Tout est suspendu, agenda vidé, aucun ministre sur le terrain au gouvernement. C'est un jour après l'autre, disent les conseillers. Certains s'attendaient à voir la première ministre démissionner pour être reconfirmée, relégitimée. Ça n'est pas le scénario qui semble se dessiner, puisqu'elle sera entourée tout à l'heure à la mi-journée par ses ministres pour montrer qu'elle est soutenue. Mais pour la suite, restera-t-elle à Matignon ? Certains plaident pour changer des têtes, pour redonner un nouveau souffle. Mais ce qui est surtout en question, c'est l'agenda. Quelle réforme ? Beaucoup demandent dans la majorité à revenir vers les sujets du quotidien des Français, l'école, la santé, la qualité du travail. Et pour redonner un cap, le président va devoir parler aux Français. Quand ? Rien n'est arrêté à ce stade, mais il faudra repartir avec beaucoup d'humilité, prévient déjà un ministre.
Alors la suite maintenant, la suite pour le texte de la réforme des retraites, ça va se passer au Conseil constitutionnel, qui sera directement saisi d'ailleurs par la Première ministre Elisabeth Borne, en réponse aux parlementaires qui s'interrogent sur la constitutionnalité de certaines mesures. C'est ça Cyprien Pézeril ?
Ils devront vérifier s'il n'y a pas de vice de forme. Cette réforme des retraites est contenue dans un type de texte d'habitude utilisé pour rectifier au cours d'une année le budget de la sécurité sociale et jusqu'à présent pas pour mener une réforme d'ampleur. L'outil choisi par le gouvernement permet de limiter la durée des débats. Alors est-ce que c'est conforme à la Constitution ? Eh bien en tout cas, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, aurait selon le Canard enchaîné mis en garde l'exécutif de tout risque de détournement de procédure. Se pose aussi la question de l'absence de vote à l'Assemblée. À aucun moment, les députés ne se sont prononcés sur l'ensemble du texte. Seul le Sénat l'a fait. Là encore, c'est une première pour une réforme des retraites. Face à cela, les juges pourraient décider de retoquer l'ensemble du projet de loi ou bien seulement quelques dispositions, comme l'index senior notamment.
Alors tout cela n'entame pas la détermination des travailleurs, c'est ce que dit la CGT. On est en train de créer la plus grande crise sociale de ces 10 dernières années, regrette la CFDT. Et en attendant la journée de mobilisation de jeudi, les actions continuent ce matin, notamment chez les pétroliers. Maubek Regagnier, vous êtes près de Rennes en direct ce matin pour RMC. Près de Rennes où des grévistes bloquent depuis hier le dépôt de Vernes-sur-Seiche, dépôt qui alimente une partie du Grand Ouest.
Habituellement, 5 millions de litres de carburant sortent de ce dépôt par jour, ce qui représente environ 150 camions-citernes qui viennent y remplir leur cuve. Et ce matin, les camions-citernes sont à l'arrêt en file indienne devant le dépôt pétrolier. Les conducteurs sont d'ailleurs descendus prendre le café avec la trentaine de grévistes FO et CGT qui bloquent l'entrée du site depuis hier matin. Ils ont passé la nuit ici autour d'un feu de bois toujours allumé pour se réchauffer. La motion de censure, ils n'y croyaient pas. Ils ne croient qu'aux actions, qu'au blocage de l'économie. D'ailleurs, les stations Total alentour sont pour la plupart en pénurie de carburant. Ils disent vouloir rester jusqu'au retrait de cette réforme et même si ses opposants le savent, les forces de l'ordre pourraient intervenir aujourd'hui ou peut-être demain pour les déloger. Dans ce cas-là, les responsables syndicaux étudient déjà d'autres points stratégiques qui pourraient permettre de maintenir le rapport de force, notamment les plateformes logistiques qui fournissent les supermarchés.
Et ça devient très compliqué ce matin de faire le plein dans le sud de la France. La moitié des stations sous tension dans les Bouches-du-Rhône, 40% dans le Gard, un tiers dans le Vaucluse, un quart dans le Var, plein limité à 30 litres d'ailleurs dans le Var et le Vaucluse, et d'importants bouchons recensés près des stations à Marseille et à Sisteron. Il est 6h06 sur RMC et il est encore temps d'éviter le pire. Voilà ce que nous disent les experts climat de l'ONU, ceux du GIEC, dans leur dernier rapport. Mais alors il faut pour cela réduire de moitié nos émissions d'ici à 2030 et agir tout de suite en fait, Marion Gauthier.
Il faudrait un sursaut, que tous appuient sur le bouton avance rapide, insiste le secrétaire général des Nations Unies. Tous les secteurs d'activité, tous les pays développés, Antonio Guterres les exhorte donc à avancer leur objectif de neutralité carbone. Nous avons le savoir-faire et les ressources financières pour surmonter les problèmes climatiques, estime quant à lui le président du GIEC. Le rapport cite en exemple les progrès réalisés dans les énergies renouvelables ou les batteries. Il appelle à augmenter les investissements dans cette guerre climatique plutôt que dans les énergies fossiles. On a besoin d'actions tous azimuts, abonde la climatologue Valérie Masson-Delmotte, car à chaque fraction de degré en plus, explique-t-elle, ce sont des événements climatiques plus fréquents et plus intenses. La décennie qui vient, d'après les experts, sera cruciale.
Bon, et puis la décision est prise chez les Bleus. Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de football, le sélectionneur Didier Deschamps l'a annoncé hier soir à Clairefontaine, où les Bleus sont rassemblés depuis hier pour deux matchs de qualification à l'Euro 2024. Didier Deschamps qui s'est entretenu avec Antoine Griezmann, qui était l'autre candidat naturel pour le poste de capitaine et qui devient vice-capitaine.
Oui, on va y revenir. Ce brassard chez les Bleus pour Kylian Mbappé, on va en parler dans la Story Sport tout à l'heure, avant 6h30 avec Antoine Martin. À 6h30, on va aussi retrouver Apolline de Malherbe pour Apolline Matin. Tiens, petit secret, tant qu'on est entre nous, tant qu'elle n'est pas arrivée, c'est l'anniversaire d'Apolline aujourd'hui. On va le fêter tout à l'heure, c'est promis. Mais oui, venez, tiens, si vous le souhaitez, au 32-16, j'en souhaitais un bon anniversaire à Apolline de Malherbe, qui a 22 ans, évidemment. Oui, aujourd'hui, évidemment, c'est l'une des infos ce matin. On vous retrouve, Quentin, à tout à l'heure pour un prochain journal à 7h sur RMC, RMC Story. On va retrouver aussi Emmanuel Le Chypre dans quelques minutes pour notre Chypre du jour. Emmanuel qui va nous parler des suppressions d'emplois annoncées chez Amazon. Mais tout de suite, évidemment, la réforme des retraites à la une.
Et la jeunesse à fond contre cette réforme. Les étudiants se mobilisent. Une cinquantaine de facs sont bloquées ou occupées par les étudiants. Peuvent-ils faire basculer le rapport de force face au gouvernement ?
Bonjour, Éléonore Schmitt.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du syndicat étudiant L'Alternative. Alors, cette mobilisation des jeunes, est-ce qu'elle peut être un tournant dans la contestation de cette réforme ? On va en parler tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Charles Matin.
Vos réactions sur l'appli RMC et sur notre page Facebook. Après le rejet des motions de censure, beaucoup de colère ce matin dans vos messages, la colère et de la détermination aussi à poursuivre le combat contre la réforme des retraites. Je soutiens les grèves et les blocages, il n'y a que ça qui fonctionnera, nous dit Ferrat, notamment ce matin. Fred, lui, est écœuré après le rejet des motions de censure. J'ai déchiré ma carte d'électeur, nous écrit-il carrément. Fabrice espère que le peuple va enfin se soulever. Pour Clarisse, s'il ne faut pas considérer que tout est plié, on a encore une chance de se faire entendre, écrit-elle, ne plions pas. Et pour Oliver, les Français sont, je cite, trop pacifistes et pas assez solidaires. Il faudrait encore durcir le ton, selon lui. Pour Denise, il faut aussi continuer les grèves et les blocages. Tiens, Denise, t'en parlais, Charles, qui souhaite un joyeux anniversaire à Apolline. Venez justement lui souhaiter son anniversaire dans une vingtaine de minutes sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h11, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin sur ce plateau, c'est vous, donc, Éléonore Schmitt. Bonjour. Vous êtes étudiante en sciences politiques et porte-parole du syndicat étudiant L'Alternative.
Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, on a peu vu les jeunes dans la rue, dans les manifestations. Mais on a l'impression que depuis l'utilisation du 49.3, ils se mobilisent. D'abord, où est-ce qu'on en est concrètement ce matin ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'universités qui ont voté des grèves, des blocages ? Dites-nous où on en est.
Déjà, c'est vrai que le 49.3, ça a été un petit peu la goutte de trop pour les étudiants qui se sont du coup massivement mobilisés. On les a beaucoup vus, notamment dans les rassemblements spontanés là, qui ont lieu ces derniers jours. Et puis là, de manière générale, on avait des blocages d'universités qui commençaient vraiment bien à prendre. Il y en avait 60 universités qui étaient bloquées la semaine dernière. Là, hier, on avait encore 50 universités mobilisées. Et oui, effectivement, des blocages, des occupations qui ont commencé à être votées. Hier, il y avait notamment une occupation à Tolbiac, donc à Paris 1, qui a eu lieu, également à Strasbourg.
Des occupations, on voyait des étudiants encore hier soir, ou est-ce qu'on en est ce matin ? Ils ont dormi à la fac ou ils ont été évacués ?
Alors hier, en tout cas, moi, les dernières informations que j'avais, c'était qu'il y avait encore 80 étudiants, notamment à Tolbiac, qui étaient encore sur place. Ils étaient 1000 à midi. En fait, il y a eu des CRS qui sont intervenus, notamment même à Strasbourg, une répression policière très forte avec des gazages, avec des CRS qui sont intervenus sur les campus. Donc nous, on remet justement en question aussi la franchise universitaire normalement interdit les policiers d'entrer sur les campus. Là aujourd'hui, on voit justement qu'il y a une répression très forte et qu'on dénonce aujourd'hui.
Mais les campus donc ont été évacués. Il n'y a pas de fac occupée ce matin, en tout cas pas de nuit quoi. Les occupations nocturnes ont été évacuées par la police cette nuit. Ces jeunes, oui, on le disait, on les voit de plus en plus depuis quelques jours dans ce qu'on appelle des manifestations spontanées, sauvages, avec des violences et des dégradations. On a vu toutes ces images encore hier soir. Plus de 170 interpellations à Paris. Est-ce que votre syndicat étudiant, L'Alternative, j'imagine, appelle les jeunes à se mobiliser, à manifester. Est-ce que vous condamnez pour autant toute forme de violence dans les cortèges qu'on voit ces derniers jours ?
Nous, ce qu'on dit, c'est que quand on a un gouvernement qui passe en force et qui, du coup, utilise tous les moyens qu'il peut face à ça, on est obligé également de durcir le mouvement, d'utiliser tous les moyens qu'on peut pour bloquer le pays. Et effectivement, ça passe notamment par les rassemblements spontanés. Mais après, il y a une différence quand même, je pense, de violence entre des poubelles, par exemple, brûlées dans la rue et le fait qu'il y ait aujourd'hui des jeunes quand même qui soient mis à genoux, les mains derrière la tête, ou alors qui soient arrêtés arbitrairement, comme ça a été le cas hier, notamment même au sein des organisations de jeunesse, avec notamment la co-animatrice des Jeunes Insoumis qui a été arrêtée dans la nuit. Et aujourd'hui, nous, on demande sa libération notamment.
J'entends, mais vous ne m'avez pas dit, vous condamniez toutes les formes de violence, de dégradation qu'on peut voir dans les cortèges.
Bah après, nous, on n'appelle pas à briser des vitrines, par exemple, ou à.
C'est important de le dire.
Ou à brûler des poubelles de façon générale. Mais par contre, la violence, pour nous, c'est pas ça. La violence, c'est quand on rajoute 2 ans de travail aux plus précaires. La violence, c'est quand il y a effectivement des étudiants, des lycéens qui sont mis à genoux, qu'on arrête et qui sont parfois réprimés de façon très dure. Il y a quand même eu des cas de violence sexiste et sexuelle, notamment aussi à Nantes.
Alors l'idée là, c'est quoi? C'est de bloquer jusqu'au retrait total de la réforme, quitte à faire durer ce mouvement et pénaliser les étudiants durant les examens, c'est ça l'idée?
Pour le moment, les étudiants ne sont pas en examen. De toute façon, ce sera plus vers le mois d'avril et de mai. Après, oui, nous, on va bloquer de toute façon jusqu'au retrait de la réforme. On avait déjà appelé, pour le 7 mars, un blocage reconductible qui a bien pris pour le moment. On a quand même beaucoup d'universités quand même qui sont mobilisées. Certes, les AG n'étaient pas encore très massives, mais hier, on était quand même 1000 étudiants à Tolbiac. Donc, c'est un chiffre qu'on retrouve par rapport à 2018, par exemple, les manifestations contre la loi ORE avec Parcoursup. Donc, voilà, c'est une mobilisation quand même qui prend beaucoup. Et nous, effectivement, on appelle au blocage et jusqu'au retrait. Oui.
On voit qu'elle prend. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces jeunes vont se joindre au cortège officiel des syndicats jeudi prochain? Parce qu'on les voit, oui, faire des blocages, des manifestations un peu sauvages, spontanées. Vous espérez qu'ils viennent se joindre au cortège jeudi prochain, j'imagine?
Déjà, partout en France, il y avait quand même des cortèges qui étaient plutôt remplis de jeunes. C'est vrai qu'à Paris, on les voyait un petit peu moins, mais on a un cortège interfac, notamment là, dans lesquels les organisations de jeunesse aussi vont, qui se remplit aussi petit à petit. On voyait notamment, il y avait quand même 10 000 étudiants qui étaient dans la rue jeudi dernier, justement au moment de l'annonce du 49-3. Et c'était un chiffre qui était très intéressant et on verra. Nous, on appelle de toute façon les étudiants à aller massivement jeudi à la manifestation de l'intersyndicale.
Et vous comprenez que ça puisse choquer une partie de l'opinion de voir des jeunes, alors des étudiants, on voit aussi des lycéens qui ont une vingtaine d'années et qui sont même pas encore entrés sur le marché du travail et qui déjà disent je vais bloquer, faire grève, manifester pendant des jours et des jours contre la réforme des retraites, alors que la retraite c'est très loin pour vous, quoi.
Bah en fait, c'est un petit peu le genre de commentaire qu'on entend à chaque mobilisation. De manière générale, on se demande toujours pourquoi est-ce que la jeunesse se mobilise alors qu'on n'est pas directement...
Il y a des réformes ou des lois qui impactent plus directement la jeunesse. Là, c'est pas votre quotidien qui est touché par cette réforme.
C'est pas notre quotidien, mais c'est quand même le rapport au travail aussi qui est interrogé quand on parle des critères de pénibilité, par exemple. Et puis en 2010, les jeunes étaient aussi massivement dans la rue, par exemple aussi contre la réforme des retraites. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Et non, pour nous, enfin moi, ça m'étonne un petit peu justement que l'opinion publique ne comprenne pas qu'aujourd'hui, oui, les jeunes sont inquiétés aussi pour leur avenir et sont mobilisés au côté des travailleurs.
Éléonore Schmidt, je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat étudiant L'Alternative. Je vous propose qu'on accueille Christophe, qui est plus étudiant, lui, qui est chef boucher. C'est ça? Bonjour Christophe.
C'est ça, bonjour.
Christophe,
bonjour.
Vous avez composé le 32-16 depuis le Val d'Oise. Alors vous entendez, oui. On entend là ces jeunes qui se mobilisent, qui sont de plus en plus nombreux à bloquer, à manifester. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe?
Moi, je vais juste faire un petit rappel en arrière. Le premier mandat de Macron, on a pris 3 ans de confinement. Les gens, ils ont pesté, ils ont dit ouais, des têtes au bout des pics et tout machin. J'ai vu personne dans la rue. Enfin voilà quoi, il y avait matière à faire, mais il y a eu personne dans la rue. On leur a dit gentiment, il faut voter pour Macron parce qu'il faut faire barrage à l'extrême droite, comme si c'était le Troisième Reich. Ils ont voté Macron. Maintenant, si les gens sont pas contents, tant pis pour eux. C'est comme ça, tant pis. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est si vraiment les gens n'étaient pas contents, qu'ils fassent vraiment une manif pour que le vote blanc soit comptabilisé en fait.
Ouais, donc pour
là,
vous, il y a un souci démocratique, vraiment... c'est ce que j'entends, Christophe.
Sûr, largement.
Mais en attendant, là, je vous entends, j'imagine. Enfin, est-ce que vous êtes opposé à cette réforme? Est-ce que vous soutenez, là, les grèves, les blocages?
Je soutiens, mais moi, je pense que c'est trop tard. Enfin, c'est fini. Qu'est-ce qui va changer quoi? Parce qu'il y a 4 poubelles de café et une vitrine de.
Ben, c'est intéressant. Alors, Christophe, vous nous dites c'est trop tard. Je vais poser la question à Éléonore Schmidt. Est-ce que la jeunesse se réveille trop tard? On les a pas vus, là, en février-mars. On a moins vu les jeunes dans les cortèges. Est-ce que là, se réveiller après l'adoption définitive du texte, c'est pas trop tard?
Non, parce que déjà, le temps parlementaire et le temps du mouvement social, ça n'a jamais été le même. Il y a quand même 2 calendriers qui sont différents. En 2006, justement, la mobilisation des étudiants et des étudiantes avait permis, justement, le retrait de la loi avec le contrat première embauche.
Le CPE,
donc,
oui.
Ouais, donc, nous, on pense que c'est encore possible. Et c'est aussi pour ça qu'on va se mobiliser jusqu'au retrait. Et on est convaincus qu'on peut obtenir une victoire là-dessus et qu'on ne lâchera rien, de toute manière, jusqu'au bout.
Vous misez sur un scénario à la CPE, on va le dire comme ça. Éléonore Schmidt, porte-parole du syndicat étudiant L'Alternative. Et donc, vous nous signalez une cinquantaine de facs avec des blocages. Des occupations, mais une évacuation cette nuit à Strasbourg et à Tolbiac, notamment à la fac de Tolbiac à Paris 1, des étudiants qui occupaient de nuit leur fac et évacués par la police. Merci d'être venu dans ce studio ce matin faire le point sur cette mobilisation de la jeunesse qu'on voit que ça prend depuis le 49-3, comme vous nous le dites, ça a été la goutte qui a fait sortir les jeunes dans la rue, notamment. On va continuer à suivre de très près et ça vous fait réagir comme Christophe qui vient de composer le 32-16 qu'on remercie. Vous continuez vous aussi à réagir avec Apolline qui arrive dans un instant pour Apolline Matin sur RMC et RMC. C'est Story. Mais avant cela, deux rendez-vous. Emmanuel Le Chypre, bonjour.
Bonjour à tous.
Au menu du Chypre du jour.
Ah, ça dégraisse sévère dans la Silicon Valley.
Ah oui, des suppressions d'emplois chez Amazon, on va en parler tout de suite. Et puis, notre Story Sport avec Antoine Martin. Salut Antoine.
Salut Charles, bonjour à tous. Ça a toujours de la gueule quand même, un capitaine de l'équipe de France avec un numéro 10, Zidane, Platini et maintenant Mbappé.
Mais oui, Mbappé, capitaine, on en parle tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h21 sur RMC et je vous l'annonce, Emmanuel Le Chypre est très en forme.
Le Chypre du jour.
Emmanuel, on passe au Chypre du jour. Et c'est un chiffre élevé, 9000.
Oui. Ah oui, ça dégraisse sévère hein, dans la Silicon Valley, à commencer par Amazon. Alors Amazon, il nous avait annoncé un premier plan social en novembre dernier. 10 000 postes en moins. Ensuite, ce chiffre a été revu à la hausse en janvier. 18 000 licenciements. Et là, c'est 9 000 licenciements supplémentaires que vient d'annoncer Amazon, soit un total de 27 000 postes supprimés depuis novembre. C'est en partie l'effet boomerang hein, de la crise sanitaire. La pandémie avait largement bénéficié au secteur de la technologie, qui avait beaucoup embauché, et la crise économique, malheureusement, a rattrapé ces sociétés qui avaient parié sur de nombreuses années de forte croissance.
Alors, il n'y a pas qu'Amazon. Hein. Depuis un an, les licenciements se multiplient dans le secteur de la tech aux États-Unis.
Effectivement, Anaïs, la liste des entreprises ne cesse de s'allonger. Google a annoncé début 2023 6% d'effectifs en moins. Et puis PayPal, Yahoo, Zoom, Twitter, Lyft, Salesforce, Stripe, tout ça.
J'ai pas la dernière. Salesforce et Stripe.
Alors Salesforce, c'est la plus grosse société de services aux entreprises. Tout ce qui concerne le paiement, par exemple, dans les boutiques. Le fait que demain vous ne paierez quasiment plus, vous ne commettrez plus l'acte de payer. Vous arriverez, vous rentrerez, vous repartirez.
C'est dématérialisé. Comme on dit.
Voilà, tout ça, c'est Salesforce. Et puis, au final, ce sont 500 entreprises qui ont annoncé des plans sociaux dans le secteur. Presque 140 000 emplois de moins, nous dit le site Layoff. Donc, mais c'est la vie de ce secteur.
Comme vous
ça
le disiez,
embauche très vite, ça licencie très vite, mais ça réembauche très vite derrière.
C'est un cycle, mais en ce moment, ça dégraisse sévère. C'était le Chypre du jour avec Emmanuel Le Chypre. On passe à la Story Sport.
La Story Sport.
Avec Antoine Martin. Antoine, Didier Deschamps a fait son choix. Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus.
Il était favori pour récupérer le brassard d'Hugo Lloris. Et ça ne choquera personne quand on voit son arrivée à Clairefontaine hier, col roulé, menton long, lunettes de soleil, façon parrain qui salue ses hommes de main.
Oh putain, je te reconnaissais pas. Tu passes inaperçu, tu essayes de te glisser dans la, dans la masse.
Bonjour. Comment va?
Comment?
Ça va ou quoi? Ok, toi.
Bien,
ouais, merci.
Allez, c'est comment?
C'est lunettes qui viennent alors.
On peut le dire, on dirait le propriétaire de Clairefontaine qui vient faire un petit état des lieux, quoi.
Serein le Kix, serein. Ouais. Et blague à part, ça ne mérite même pas un débat, son capitana. C'est déjà le patron sur le terrain, en club, mais aussi en sélection. Lors de la dernière finale du Mondial face à l'Argentine, les Bleus sont menés 2-0 et c'est lui qui sonne la révolte à la mi-temps.
C'est le match d'une vie. De toute façon, on ne peut pas faire pire, parce que c'est la peste. On retourne sur le terrain, sans les laisser jouer au con, sans niveau, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis deux buts, on est menés 2-0. Hein, on peut revenir. Hein. Les gars, c'est tous les 4 jours un truc comme ça.
Et une heure et demie plus tard, qu'est-ce qui se passe? Triplé du numéro 10, la parole puis les actes.
Sa finale de Coupe du Monde l'a définitivement fait passer dans une nouvelle dimension.
C'est une évidence de le voir capitaine des Bleus désormais. Mbappé est l'étendard de cette nouvelle génération.
Kylian fait partie de ces joueurs-là. Je pense que s'il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c'est quelqu'un qui est plutôt très bon, très habile dans la communication.
Alors Didier Deschamps s'en amuse, mais ça pourrait se retourner contre le sélectionneur. Personne ne dit à Mbappé ce qu'il doit dire. Nous, journalistes, on se frotte les mains parce que les conférences de presse, elles vont s'annoncer beaucoup plus croustillantes, beaucoup plus intéressantes. Fini les réponses polies de Lloris ou Varane qu'on embrasse les deux jeunes retraités internationaux. Oui. Place à la fraîcheur de Mbappé et de son vice-capitaine Antoine Griezmann.
J'ai vu un montagnier qui chante Mbappé, oui, ça plaît beaucoup à Anaïs. C'est un bon choix, non, Mbappé,
c'est le
débat.
C'est
non,
évident,
pas
non.
Je me tourne vers Manu.
Ah non, non, non. il est jeune, il a l'autorité.
Et puis, comment ça l'avoir avec le Paris Saint-Germain, notamment, on le voit souvent avec le Brassard ses derniers matchs avec le PSG, donc il a la carrure.
Et puis il s'engage, on l'a même vu prendre position, je me souviens, dans l'affaire Le Graët, au lendemain des propos de Noël Le Graët sur Zidane, donc voilà, il n'a pas peur de s'exprimer.
Sa parole a du poids, que ce soit chez les Bleus ou avec le Paris Saint-Germain.
C'est bien que ce soit pas un gardien, parce que le gardien, en fait, déjà, il peut parler naturellement. Il a une forme d'autorité naturelle, ça fait un peu doublon gardien.
Et puis, on adore Hugo Lloris.
Bien sûr.
Mais ses conférences de presse, c'était pas.
C'est pour ça, j'ai dit avec beaucoup
Antoine
plus bien et on va bosser dessus. Ça va être un peu plus.
Ça va être un plaisir de suivre, notamment les Story Sport avec Antoine Martin tous les matins. Votre rendez-vous sport à 6h25 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, c'est l'événement. Vous retrouvez Apolline de Malherbe pour Apolline Matin. Et je vous donne déjà la petite info. C'est l'événement ce matin. C'est l'anniversaire d'Apolline qui fête aujourd'hui ses 22 ans.
Elle
arrive en courant. C'est l'événement. Est-ce qu'on a un peu de musique? Voilà, arrivée en fanfare d'Apolline.
Joyeux anniversaire, Apolline.
22 ans, ça se fête. Évidemment, ce matin, sur RMC, c'est l'événement. Bah, venez au 32-16 sur Direct Studio. Célébrer Apolline dans Apolline Matin.
Merci, Charles. Je ne sais plus quoi dire. Évidemment, heureuse de vous retrouver. Et particulièrement heureuse de passer cette matinée avec vous, celle-là en particulier. On va revenir, bien sûr, sur les échauffourées de la nuit avec ces violences qui ont éclaté un peu partout, ces manifestations, cette colère qui s'exprime contre l'usage du 49.3 et contre le fait que la loi, eh bien ça y est, c'est officiel, a donc été adoptée. Les motions de censure ont échoué. Venez donc nous dire au 32-16 comment est-ce que vous vivez ces mobilisations. Est-ce que vous poursuivez d'ailleurs le soutien à la mobilisation malgré le fait que la loi a été officiellement adoptée? Est-ce qu'il faut malgré tout poursuivre le mouvement? Deux invités politiques, Franck Riester qui est le ministre en charge justement des relations avec le Parlement, il sera mon invité à 7h40, n'hésitez pas à venir l'interpeller au 32-16. Et puis à 8h30, la droite fracturée sur cette motion de censure. Le chef de la droite au Parlement sera mon invité, Olivier Marleix, à 8h30. À tout de suite.